Europe Soir, le 18-20,
Isabelle Milleul.
Et à 18h31, on ouvre maintenant le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Michel Cotta, Claire Chartier, rédactrice en chef de la rubrique Idées et débats à l'Express, et l'historien Jean Garrigue. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
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 Française, Français, mes chers compatriotes, comme chaque année, le président de la République va donc prononcer ces mots dans un peu plus d'une heure maintenant, une heure et demie, en introduction de ses traditionnels vœux aux Français pour 2021. Des vœux qui auront bien sûr une tonalité particulière cette année, tant l'épidémie de coronavirus a bouleversé la vie du pays. Jean Garrigue, est-ce que vous avez d'abord le souvenir d'une année aussi terrible depuis la Deuxième Guerre mondiale que celle qui s'achève ?
Alors, d'abord, les vœux, ça date du général de Gaulle. Auparavant, soit on ne faisait pas de vœux, soit on a commencé à en faire. C'était au début du mois de janvier. Donc, c'est plutôt par rapport à la Ve République. Mais là, effectivement, par rapport à la Ve République, ce type de drame national qu'est une pandémie, on ne l'a jamais connu. Et ces vœux, c'est vrai, vont intervenir dans un moment tout à fait particulier, quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui, sous la Ve République et même avant, n'a jamais été connu. Et donc, il doit faire face à exprimer un discours qui est un peu différent, en tout cas dans un contexte très différent de ceux qui l'ont précédé. Ça, c'est une certitude.
Claire Chartier, l'histoire retiendra qu'Emmanuel Macron a été le président du Covid. Il y a mieux comme trace à laisser dans l'histoire.
Absolument. Mais pour revenir juste un instant peut-être sur le passé, il y a peut-être un président avec lequel on pourrait comparer Emmanuel Macron dans ce moment présent, c'est Valéry Giscard d'Estaing. On l'a déjà comparé pour son côté moderne, mais en 1979, Valéry Giscard d'Estaing doit faire face au choc pétrolier et il tient vraiment un discours de vérité très churchillien aux Français, qui vraiment, quand on le relit, est assez impressionnant. Ça s'adresse quand même à un horizon assez sombre et donc il y a quand même quelques échos par le passé. Oui, c'est une année particulièrement difficile.
Et c'est ce genre de discours, comme celui de Valéry Giscard d'Estaing, qu'il devrait prononcer ce soir, Emmanuel Macron,
Valéry
Michel
Giscard d'Estaing avait prononcé des vœux particuliers, puisqu'il avait commencé, je me rappelle encore sa phrase, « Le monde ne sait pas où il va, mais s'il le savait, il serait terrifié, enfin, ou terrifié
oui,
ou un autre. »
C'est apocalyptique.
Effectivement, une façon, ce qui était apocalyptique, et ce qui était presque démesuré avec la crise de l'époque, mais ce qui ne serait pas démesuré avec
aujourd'hui.
D'aujourd'hui. Mais enfin, des vœux, c'est quand même fait pour remonter un peu le moral,
donner
si on
un
peut.
Peu d'espoir, oui.
Donc, il sera sûrement question d'espoir quelque part, d'espoir ténu peut-être, mais d'espoir.
En tout cas, cette pandémie, elle a paralysé quand même cette année hein, pour Emmanuel Macron, pour la France. Ce devait être l'année du redressement du pays, de l'unité retrouvée de la nation après 2019 qui avait été déjà compliqué. Écoutez d'ailleurs ce que disait le chef de l'État il y a tout juste un an.
En ce moment de fête de fin d'année, je tiens à saluer nos compatriotes qui, ce soir encore, sont à la tâche. Veille sur nous, afin que nous puissions vivre ces quelques heures dans la tranquillité. Nous en avons tous besoin. Car durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve.
Nous avons vécu des moments d'épreuve, disait donc il y a tout juste un an Emmanuel Macron. C'est vrai qu'en 2019, il y a eu pas mal de chocs, l'assassinat de policiers à la préfecture de police de Paris, des catastrophes naturelles, l'incendie de Notre-Dame de Paris, la mort de Jacques Chirac aussi. Mais quand il a prononcé ces mots, Emmanuel Macron, il ne savait pas encore ce qu'il attendait, évidemment. On dit que gouverner, c'est prévoir, sauf que là, il a fallu gouverner face à l'imprévisible. Jean Garrigue.
Oui, ça c'est quelque chose, mais auquel ont dû malheureusement se préparer tous les chefs d'État et qu'ils ont connu, puisque par exemple en 2015 François Hollande doit construire son discours de vœux autour de qui s'était passé des attentats terroristes. Donc ça c'est là c'est une pandémie. Il y avait eu toutes les querelles sur la réforme des retraites l'année dernière, et puis deux ans plus tôt c'était la crise des gilets jaunes. On peut pas dire qu'Emmanuel Macron a été épargné. En revanche, et pour rebondir sur ce que disait Michel Cotta, c'est vrai que il y a quand même une dimension d'espoir qui peut sortir de ce discours, puisque on a a priori une solution à cette crise pandémique qui est la vaccination. Et donc c'est cet élément-là qui, à mon avis, va être assez central dans son discours, parce que on sait bien que la vaccination, elle pose un problème. On pense que la France est un petit peu en retard et même très en retard par rapport à d'autres pays. Donc là, il va y avoir un élément clé, parce qu'il faut que à travers travers cet élément d'espoir que peut-être la vaccination, bien il développe quelque chose qui soit propre à nous rassurer et éventuellement à nous faire passer dans quelque chose de plus positif.
Et ça va être aussi un exercice délicat. Il va falloir trouver les bons mots face à la défiance des Français. On sait que bon nombre d'entre eux n'ont pas du tout envie, pour l'instant en tout cas, de se faire vacciner. Michel Cotta.
Oui, bon, il faut s'adresser à ceux qui ont envie de le faire.
Oui, bien sûr.
Aussi. Parce qu'à force de ne s'adresser qu'à ceux qui n'ont pas envie de le faire, et à force de considérer que oui, c'est un problème en France où 50% des gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur droit. Mais l'espoir doit pouvoir exister pour les autres. Et puis il faut insuffler presque de l'enthousiasme. On voit bien en Amérique, la vice-présidente américaine, le président américain en profite de se faire vacciner pour appeler à l'espoir. Mais à partir du moment où effectivement en France, on a l'impression qu'il y a un ralentissement qu'on ne comprend pas bien, et je vois qu'Olivier Véran vient de dire que ça ira peut-être
que
plus vite pour les soignants.
Que ça va accélérer, oui, en direction des publics prioritaires.
Donc, l'espoir doit être tangible, plus évident que ce qu'il est en ce moment.
Effectivement, c'est important. Olivier Véran vient de dire que ça allait s'accélérer pour la possibilité pour les soignants de plus de 50 ans de se faire vacciner dès lundi. Donc ça, c'est quand même un changement de pied jusqu'à présent. On n'avait pas tenu du tout ce discours. On en était resté aux personnes prioritaires dans les maisons pour personnes âgées. Comment ça se fait qu'il dit ça, Olivier Véran, juste avant justement les vœux d'Emmanuel Macron, Claire Chartier?
Oui, c'est peut-être effectivement une piste. Je pense de toute façon qu'ils vont devoir peut-être un peu changer de pied, en effet, parce que ça semble pas forcément très fondé de tarder autant. Le problème il y a deux problèmes. Il y a effectivement un trait culturel français qui insiste toujours sur le négatif. Et là, on le voit dans cette communication, je rejoins complètement Michel, c'est qu'on ne parle que des difficultés que pose ce vaccin, alors qu'il faudrait quand même insister sur le fait qu'on risque beaucoup plus à ne pas se faire vacciner qu'à se faire vacciner. Enfin, il y a une différence abyssale. Donc c'est vrai que centrer la communication sur ça, ça serait déjà bien.
Plutôt que sur se faire vacciner, c'est aussi pour les autres ? Sur la solidarité.
Et ça aussi. Alors ça, on en parle très 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 peu. Oui. Ça, c'est certain. Comme d'autres aspects, d'ailleurs, on ne parle pas non plus du fait que le vaccin, il n'est pas distribué aux pays pauvres en ce moment, et c'est que les pays riches qui le monopolisent. Bon, ça, c'est un autre aspect. Mais il y a un trait culturel, il y a un pessimisme foncier sur lequel Emmanuel Macron là peut intervenir et peut-être peut contrecarrer dans son discours. On est vraiment, et ça date pas d'aujourd'hui, les travaux d'une économiste. Montrait il y a quelques années que être français vous donnait la probabilité 20% de plus de probabilité de se dire de ne pas se dire heureux. Imaginez, à condition de sociale égale. Donc c'est quand même un trait culturel. Donc là on est en plein dedans,
et en plus
avec une pandémie épouvantable et inédite. Donc là effectivement on plonge. Et je pense que l'image d'Emmanuel Macron telle qu'il l'avait vendue lors de sa campagne, de quelqu'un de vraiment moderne, ouvert sur l'avenir. Et là, il peut encore la mobiliser. On le voit au vu des sondages, parce qu'il a quand même gagné 7 points dans les sondages en une année, ce qui est quand même pas rien. Et que là, cette situation, cette pandémie, lui donne l'occasion de montrer, de corriger en fait.
Ce qui était cette image.
Son grand talon d'Achille, c'était son manque d'empathie, de fibre sociale, de proximité avec les gens. Là, il est en train de montrer qu'il est capable de mobiliser les ressources nécessaires pour venir au secours des Français. Donc, même pour lui, si vous voulez, ça le rend, je pense, beaucoup plus crédible. Et donc, dans sa prise de parole, il y a tout ça derrière qui se joue.
Ouais, ceci étant, on est toujours, quand on est enfant, effectivement, on demande pourquoi on est le seul pays à manquer à ce point-là de confiance. Tout ce que disent les hommes politiques peuvent se retourner contre eux. Et au fond, on voit les mêmes gens qui disent « Mais alors, pourquoi est-ce que le pouvoir politique ne s'implique pas davantage ? Pourquoi est-ce qu'il y en a ?» Et les mêmes gens disent « Mais comment ils s'impliquent ? Pourquoi sont-ils les premiers ? En quoi doivent-ils les premiers à être vaccinés ?»
Si la scène
d'un Joe Biden se faisait se faisant vacciner, passer en France avec le président de la République, je suis persuadée
qu'il y aurait
beaucoup de gens qui auraient dit c'est un passe-droit. Donc c'est en effet compliqué, mais ça rend encore plus compliqué son discours, ses vœux de ce soir. Alors il paraît qu'ils seront plus rapides.
On verra ça, puisqu'on va les suivre en direct sur Europe 1.
C'est ce qu'on dit, mais on sait aussi que Il est toujours plutôt long, Emmanuel Macron.
Voilà, il paraît que c'est 15 minutes. Donc,
je ne suis pas dans les secrets d'Élysée. On verra ça puisque c'est vœux. Je vous rappelle qu'on va les suivre en direct à partir de 20h. En tout cas, ce sera un exercice évidemment très compliqué. Tracer des perspectives, c'est difficile parce que Emmanuel Macron, il s'est retrouvé par la force des choses dans la situation d'un gestionnaire et non pas d'un réformateur pendant cette année 2020, Jean Garrigue.
Oui, lui dont le programme s'intitulait Révolution. C'était donc par essence un programme de rupture, de transformation, de réforme, a été totalement contraint finalement à une posture de réaction face aux gilets jaunes. Alors quand il a essayé la réforme des retraites, on voit les résultats que ça a donné, la crise sociale terrible que ça a donné, et puis évidemment la pandémie qui engendre une crise économique, une crise sociale, une crise de confiance aussi, une crise morale terrible chez les Français. Donc c'est vrai que lui qui avait annoncé les jours heureux, il faut s'en souvenir, cet été, qui pensait qu'on pourrait rebondir, eh bien le voilà contraint justement à gérer une nouvelle phase de la pandémie, peut-être même un troisième confinement qui pourrait venir. Et ça rend effectivement dans un discours de réveillon comme ça, il y a un discours présidentiel, il y a toujours trois éléments qui sont l'empathie. Ça, c'est quelque chose de très important et quelque chose qu'il a appris à faire, peut-être qu'il ne faisait pas suffisamment au départ. Il y a la notion d'unité nationale qui est fondamentale et qui n'est pas évidente dans un pays fracturé comme le nôtre. Et puis, il y a l'espoir dont on parlait tout à l'heure. Et là, c'est évidemment assez difficile pour lui de parler des jours heureux alors qu'on est encore dans cette pandémie. Donc, c'est un exercice d'autant plus subtil auquel il devra se livrer, trouver des mots extrêmement précis et entraînants, je veux dire, pour justifier en quoi la vaccination peut précisément nous ouvrir sur quelque chose de plus positif et comment il peut préparer la reprise économique, comment il peut préparer justement les jours heureux qu'il avait annoncés il y a quelques mois.
D'autant que ce soir, il sera écouté par des Français qui seront souvent soit seuls chez eux, soit à 6 maximum pour ce réveillon. Ça va être un grand écart entre la solennité et le concret. Ça va être très
toujours
délicat,
c'est toujours un peu le cas.
Plus que d'habitude,
vœux,
là.
Tous les vœux des présidents s'adressent effectivement aux gens qui sont seuls, davantage aux gens qui sont seuls devant
Il y en a beaucoup qui sont seuls chez eux à cause du couvre-feu et des mesures imposées. Il y en a plus que d'habitude.
Dans un état d'angoisse. Mais surtout, si on se reporte aux vœux de l'année dernière, c'était quand même des vœux formidablement optimistes. La pandémie n'avait pas tout à fait commencé. Elle s'apprêtait à commencer, mais elle n'était pas là. Et les vœux, c'était le chômage, on est en train de le faire baisser. La croissance, elle est en train de repartir. Et donc, évidemment, quand on a ces messages-là à dire, c'est sûrement plus facile pour un président de la République, même devant des gens qui sont seuls devant leur téléviseur.
Poste de radio, Michel.
Là, évidemment, mais c'est beaucoup plus difficile, mais je crois que...
Là, il y a un point positif, c'est que, dont on parle peu d'ailleurs, c'est le rebond de l'économie, la bonne résistance de l'économie française. En fait, la croissance
finalement, assez contre-intuitif. Ouais.
Ça, c'est effectivement, ça mérite d'être souligné. C'est en tout cas un argument qui pourra
utiliser peut-être ce soir. Effectivement,
18%, je crois.
Les perspectives économiques ne sont pas si terribles que
non,
ce qu'on
absolument. Et comparé aux autres pays, la France s'en tire plutôt bien. Donc, il y a quand même des éléments qu'on peut revenir à ce qu'on disait auparavant.
Y compris, si on veut donner des éléments d'espoir aussi, c'est l'espèce de transformation qui est certaine du monde du travail.
Oui.
Par exemple, le télétravail, etc. Tout ça, ce sont des éléments...
D'agilité, de souplesse, peut-être, pour la
de souplesse. Là, on a l'impression que le travail ne sera plus jamais ce qu'il était. Et pourtant, c'est vrai que la situation économique est moins mauvaise
que ce que l'on pouvait redouter.
On
va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. Les grandes voix, restez avec nous. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h46 et on poursuit ce soir notre débat des grandes voix avec toujours à mes côtés Michel Cotta, Claire Chartier et Jean Garrigue. Alors, je voudrais vous lire, messieurs, dames, ces tweets qui arrivent en cascade à l'instant d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, alors qu'on est à un peu plus d'une heure maintenant des vœux d'Emmanuel Macron, puisque c'est de ça que l'on parle ce soir. Donc, on évoquait tout à l'heure la stratégie vaccinale qui a été extrêmement critiquée et sur laquelle le président devrait revenir. Alors, visiblement, son ministre le précède. Alors, il écrit « Certains d'entre vous questionnent le rythme de la vaccination. Soyez rassurés, cette campagne vaccinale, elle va bientôt prendre de l'ampleur. Le vaccin est une chance historique d'en finir avec cette pandémie. Il annonce que la campagne de vaccination va s'accélérer en direction des publics prioritaires avec la possibilité pour les soignants de plus de 50 ans de se faire vacciner dès lundi. Comment expliquer que le ministre de la Santé, comme ça, anticipe sans doute ce que devrait annoncer aux Français Emmanuel Macron dans une heure.
Il vaut mieux anticiper qu'être contredit.
Bien sûr, ils auraient pu laisser la primeur au président de la République.
C'était plus difficile, c'est une première annonce. C'est vrai que si le président de la République avait dit le contraire de son ministre de la Santé, ça aurait quand même été... le rythme du ministre de la Santé est tardif, le revirement est tardif, mais peut-être c'est justement là-dessus que rebondira
Emmanuel Macron. Oui, au contraire, ça peut même ouvrir vers le discours
ouvrir
d'Emmanuel Macron.
Ouvrir la porte au discours d'Emmanuel Macron, Olivier Véran, qui parle de transparence, qui dit que toutes les informations sont rendues disponibles en France, le nombre de vaccins délivrés, la tolérance, l'efficacité. Il y a déjà ce discours, on commence à rassurer énormément les Français et c'est ce que devrait poursuivre certainement tout à l'heure Emmanuel Macron.
Il faut dire que c'est quand même un job pas facile, il faut avouer. D'une semaine à l'autre, en fait, les dirigeants sont pris entre des injonctions contradictoires permanentes et que plus que jamais, il leur faut faire montre d'un sang-froid, je trouve, dans cette époque, et pas simplement chez nous, mais partout, en raison de la prolifération des informations et de leur circulation et de la vitesse. On leur intime de réagir très vite, donc il faut se départir de cette emprise, de cette pression en permanence pour prendre les bonnes décisions. Donc, à leur décharge, il faut avouer que c'est assez compliqué.
D'ailleurs, personne ne présente vraiment autre chose. Oui. Et justement, c'est un problème politique, ça, de voir que même si Emmanuel Macron est attaqué, même si la stratégie du Premier ministre est attaquée, aucun des membres de l'opposition ne propose autre chose.
C'est vrai.
Et ça, quelque part, ça explique aussi peut-être la montée.
Je posais tout à l'heure la question à Louis Alliot, qui était notre invité.
On n'entend jamais personne dire voilà, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais commencé par vacciner les jeunes, par exemple.
Voilà, d'autant qu'à l'étranger.
Personne n'a dit ça, ni dans l'Europe entière, personne ne l'a dit.
Parce que tout le monde tâtonne dans le monde entier, ça c'est une certitude. Est-ce qu'en 2021, Jean Garrigue, il peut exister un autre projet que celui de sortir de cette crise?
Écoutez, c'est quand même ce qu'il y avait en filigrane dans le discours d'Emmanuel Macron il y a 6 mois. C'était l'idée que précisément, je parlais du nouveau chemin, d'un chemin plus éclairé, je dirais. On a bien lu que derrière la crise de la pandémie et les solutions qu'elle pouvait susciter, il y avait un autre monde à créer. Je pense que en termes de relocalisation industrielle, par exemple, ou de développement du télétravail, mais il y a des tas de sujets comme ça, il y a quand même une capacité, si vous voulez, à créer véritablement quelque chose de neuf, peut-être qu'il faudrait faire sentir dans cette intervention justement cette capacité à anticiper vers quelque chose qui nous sorte de la pandémie et qui soit qui corresponde à ce projet, on en parlait au début de notre conversation, de révolution de la société française. Alors évidemment, il faut être très prudent et il y a en plus une élection présidentielle en 2022, ce qui va aussi peser sur la capacité de réforme et pondérer sans doute les intentions présidentielle, mais je veux dire que on voit bien que on est dans un moment historique avec une pandémie de ce type, une pandémie mondiale comme celle-ci, et justement à travers des circonstances de ce type, je pense au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque chose qui peut se refonder, quelque chose qui peut se recréer, et peut-être faudrait-il que on ait en tout cas l'impression dans cette intervention que 2021 ne sera pas simplement la sortie de la pandémie, mais le début de construction de quelque chose de nouveau.
Vous parliez de révolution. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait avant tout une révolution pour l'hôpital, qui dise un mot au personnel soignant qui ont été tellement mis à contribution pendant cette année terrible?
Il y aura sûrement quelque chose chez le personnel soignant, ne serait-ce que l'annonce qu'ils seront vaccinés à partir de lundi.
Oui, mais peut-être un peu plus que ça, parce qu'on a vu que l'hôpital a montré quand même énormément de courage, mais que ça ne pourra pas tenir pendant des années dans ces circonstances-là.
Ça, sûrement, surtout si on ne vaccine pas.
Mais ça me surprendrait qu'il n'ait quand même pas un discours très axé sur la protection. Parce qu'on sent que la thématique centrale aujourd'hui, et ce qui est demandé aux États, et là encore pas qu'en France, c'est qu'il soit protecteur de leur population. Il est beaucoup sur ce registre-là. Et un État protecteur et un président protecteur autour d'une idée, celle de la nation, c'est celle qu'il a beaucoup développée dans l'entretien qu'il nous a accordé à l'Express ces derniers jours, et qui semble effectivement permettre finalement de diffuser cette idée que les Français ont besoin de reprendre possession de leur destin, donc national, économique, technologique, culturel, et que sortir de la pandémie, c'est aussi ça, c'est aussi se diriger vers cet avenir-là, donc un avenir plus... Alors, c'est pas du repli nationaliste au sens canonique du terme, identitaire, c'est pas comme ça qu'il le voit, c'est un patriotisme qui, au contraire, s'intègre dans un espace européen, donc compatible avec une souveraineté européenne. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas un petit mot autour de cette idée-là aussi, c'est-à-dire un avenir dans cette perspective.
Michel Cotta, je crois qu'effectivement, Jean Garry a raison de dire que peut-être il va beaucoup parler d'avenir, mais si on est à sa place, on se dit quand même que les Français là ont besoin de protection plus que d'avenir qui chante, parce que si l'avenir ne chante pas, ils le savent. Ils sont pas... Donc... c'est très important, effectivement, de rassurer. Et c'est peut-être plus important aujourd'hui que de dire où on va. Ça fait des années qu'on dit « oui, mais où est le cap ? On ne voit pas le cap, etc. » Je crois que cette fois-ci, le cap, c'est quand même en sortir.
Il y en a qui ont énormément besoin d'être rassurés en ce moment parce qu'ils sont très inquiets, ce sont les jeunes. Hein.
Bien sûr. D'ailleurs, il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup dans ses interventions récentes. Il leur a parlé en direct sur Brut, etc. Mais dans cette interview dans l'Express, c'est pas pour particulièrement parler de l'Express, mais il dit aussi que la peur est revenue chez les Français. Donc pour embrayer sur ce qu'on vient de dire.
L'interview, d'ailleurs, une interview capitale, je peux le dire, puisque vous êtes à l'Express, vous ne pouvez pas le dire. Moi, je peux dire que c'est quand même un texte vraiment très, très intéressant.
Et qui marque un autre Macron.
Et qui montre l'autre Macron. Et sans doute, l'ancien Macron n'existe plus.
Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'on est passé dans un autre
On est passé à un autre Macron, Jean Garrigue.
Oui, oui, je le pense aussi, et je crois précisément que il faut pas, comment dire, opposer l'idée de l'avenir et l'idée de la protection, parce que moi, je pense précisément que ce qui s'est joué dans la pandémie, c'est une sorte de renaissance d'une nouvelle forme d'État-providence, et que l'idée précisément de la protection, mais à tous les sens du terme, que ce soit la protection sociale, la protection sanitaire et la protection sécuritaire, ce sont des thématiques qui aujourd'hui sont majeures et qui sont compatibles justement avec ce que pourrait être le nouveau projet de Macron. Alors ça n'est plus adapter l'État-providence à la mondialisation, c'est adapter l'État-providence justement à la protection. Et je pense que là, c'est un vrai fil conducteur, me semble-t-il, pour ce que veut faire Emmanuel Macron.
Mais c'est vrai que c'est un changement par rapport à l'image du président libéral qui était le produit d'une mondialisation impitoyable. Il faut avouer que ce n'est pas tout à fait le même teneur.
Et alors, cette intervention à la Nation, le soir du 31, est-ce que les Français y accordent une grande importance ?
Ah ben, généralement,
Michel Cotta.
Généralement, c'est quelque chose d'écouté, c'est presque devenu... effectivement, Jean Garry avait raison de rappeler que c'était De Gaulle qui, le premier, avait choisi de s'adresser aux Français le 31 décembre. Mais depuis, il est vrai que ça fait des scores tout à fait étonnants et qu'on a l'impression que le réveillon ne commence qu'après les vœux, même si... peut-être que les enfants ne les écoutent pas avec l'attention.
En même temps, après, c'est quand même la 9e intervention, yeux dans les yeux avec les Français cette année, donc ça va peut-être. L'intervention ne fait pas forcément événement.
Il a toujours fait les records d'audience. Hein,
c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, ça commence à faire beaucoup.
Il détient les 9 dixièmes des records d'audience, absolument.
Ça commence à faire beaucoup.
Comment ça se passe ? Pardon, je suis en train de m'étouffer. Qui écrit ses vœux présidentiels ? Il a une plume, mais on sait qu'Emmanuel Macron, en particulier, il suit rarement les conseils. En tout cas, c'est toujours lui qui a le dernier mot, non ? Jean Garrigue ?
Oui, oui, tout à fait. Il a d'ailleurs une excellente plume, puisque c'est un ancien étudiant, moi. Mais ça, c'est une autre chose. Mais, enfin, l'une de ses plumes, en tout cas. Mais simplement, oui, il a cette réputation de mettre sa patte sur ce qui a été déjà rédigé, et parfois d'en rajouter un tout petit peu, et pas forcément à bon escient. Donc, il a toujours intérêt, me semble-t-il, à être le plus cursif possible, et à et à être le plus direct possible, sans mettre peut-être trop d'emphase. Bon, ça c'est ce que certains lui reprochent, mais en tout cas, c'est un exercice très 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 compliqué. C'est un rituel, et en même temps, je suis pas sûr que ce rituel soit écouté avec beaucoup d'attention par tous les Français. Ce qu'il y a surtout, c'est ne pas commettre d'erreurs. Ça, ce serait vraiment c'est la plus compliquée le plus compliqué des défis qui lui posent.
Évidemment. Alors, comment conclure ses vœux présidentiels? Tous les ans, ça se termine toujours par le traditionnel bonne année, vive la République, vive la France. Bonne année ce soir, c'est un peu plus compliqué. Comme le disait à sa façon ce matin sur Europe 1, l'humoriste Bertrand Chameroy.
J'aimerais beaucoup être une petite souris pour me faufiler dans les couloirs de l'Élysée en ce moment. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Il va bien galérer pour la conclusion. Très bonne année 2021. Non, ça je peux pas. Bonne année. Non, trop ambitieux. Année ? Moi, ça ne veut rien dire. Comment je vais conclure ma bonne soirée ? Bonne chance. Bon courage. Oh là là, pas évident. Ah si, j'ai trouvé. Bonne nuit. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, ça n'engage à rien, ça. Quoi qu'il y ait des insomniaques. Ah si, j'ai bon courage. Voilà, ça c'est sûr. Mes chers compatriotes, du fond du cœur, je vous souhaite bon courage.
Voilà, bon courage ou bonne année, on verra ça dans une heure, tout pile maintenant. En tout cas, cette année, on n'aura aucune excuse pour ne pas suivre ses vœux présidentiels, puisqu'à 20h, couvre-feu, tout le monde à la maison, à l'écoute d'Europe 1, édition spéciale jusqu'à 20h30. Je vous remercie beaucoup, les grandes voix, de m'avoir accompagné ce soir. On vous retrouve en 2021.
Merci, bonne année.
Merci.
À très vite, à l'année prochaine.